Camille Pascal, et nous allons plonger dans l'histoire d'un été, l'été des Quatre Rois, c'est aux éditions Plon. Alors nous sommes en 1830, juillet-août 1830, deux mois, un été qui reste unique dans l'histoire de France.
Oui, un été unique, en fait, c'est même une période très courte, puisque nous allons du 25 juillet 1830 au 16 août, où la France va connaître, il va voir se succéder quatre rois. Voilà. Alors deux auront réellement régné, Charles X c'est la fin, Louis-Philippe c'est le début, mais entre les deux il y a eu le fils et le petit-fils de Charles X qui ont régné quelques heures.
Voilà, Louis XIX et puis Henri V. Alors, comment est arrivée cette histoire
Par une énorme bourde politique. La France était prospère. Elle avait retrouvé son rang international. Je rappelle que quelques semaines plus tôt, les armées françaises envahissaient l'Algérie, hein, qui restera française pendant plus d'un siècle. Il y a un certain nombre de libertés qui sont accordées depuis Louis XVIII. Et puis, le roi Charles X, qui est très attaché à l'ancien régime dans lequel il est né, n'oublions pas qu'il est le frère de Louis XVI, va décider que la France doit revenir au passé. Et donc va supprimer la liberté de la presse, va limiter au maximum le droit de vote, et va essayer de ne gouverner qu'avec la grande noblesse. Eh bien, ça ne va pas passer. D'abord, les journalistes, c'est une révolution de journalistes. Les journalistes vont protester, et notamment avec Adolphe Thiers.
Victor Hugo,
enfin, tout le monde a protesté. Et le peuple de Paris, notamment les ouvriers du livre qui sont mis au chômage par l'interdiction de la presse, eh bien, vont se révolter. Alors au début, c'est une simple émeute, mais il y a des morts. Et très vite, la capitale s'enflamme, au point que le maréchal Marmont, qui devait faire régner l'ordre, eh bien, va être obligé de battre en retraite et Charles X va devoir abdiquer.
Quelle leçon on peut tirer de cet événement ?
De cet événement, d'abord, nous sommes les enfants de 1830. Je rappelle que les décisions de Charles X sont des ordonnances, hein, c'est toujours un peu compliqué à manipuler politiquement, et une dissolution. Bon, bah, là aussi, l'histoire nous a montré qu'une dissolution, c'est pas toujours simple. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'est que nous se met en place à cette époque-là notre monde contemporain, avec le rôle de la presse, le rôle de la banque et de la finance dans la presse, parce que tous ces journaux que l'on qualifierait aujourd'hui de gauche, qui ont lancé la révolution, ils sont soutenus par des grands intérêts financiers. C'est ce débat qui existe toujours dans la Ve République entre quelle est la légitimité supérieure, celle du pouvoir exécutif ou celle des assemblées. Et donc, on voit que contrairement à ce que souvent on apprend à l'école, nous sommes beaucoup plus les enfants de 1830 que de 1789. Le bicamérisme, c'est 1830, c'est la Restauration. Et encore une fois, c'est le rôle de l'opinion publique, c'est 1830. Le rôle des grands écrivains, c'est 1830.
Il y a des sujets de société aussi qui sont abordés à cette époque-là.
Alors non, parce que ça reste une révolution conservatrice. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que moi, ce dont je me suis rendu compte en travaillant sur ce sujet, c'est que si plus personne ne veut des Bourbons, hein, de Charles X, et notamment du rôle très important qu'il accordait à l'Église, donc c'est un peu anticlérical, mais personne ne veut revoir la révolution de 1789. Car toute cette génération qui est là en 1830 a été soit directement, soit par la génération de ses parents, touchée par la terreur. Et très vite, la bourgeoisie, même la bourgeoisie libérale, même Victor Hugo, même les écrivains, vont se trouver un refuge dans la personnalité de Louis-Philippe. C'est-à-dire un roi constitutionnel, un roi libéral, on dirait un roi de gauche, mais un roi quand même.
Alors justement, vous parlez des écrivains. L'importance des écrivains, c'est Stendhal, mais aussi d'autres. Hugo, on citait, c'est Dumas également. C'est toute cette période littéraire qui est foisonnante et qui puise complètement son inspiration dans la vie quotidienne.
Cette révolution est la révolution du romantisme. Est-ce qu'on imagine, hein, je le dis à vos éditeurs, qu'en cette fin de juillet 1830, je dis bien cette fin, c'est-à-dire entre le 25 juillet et le 30 juillet, Stendhal est en train de terminer Le Rouge et le Noir et Victor Hugo commence Notre-Dame de Paris. Est-ce que il y a eu un moment dans notre culture et dans notre littérature où autant de génies se sont retrouvés à écrire côte à côte. Et il n'y a pas que. Dans cette révolution, vous voyez arriver Chateaubriand, vous avez Vigny, vous avez Dumas. Donc, tous ces grands noms du 19e siècle, qui à l'époque sont, à part Chateaubriand, qui est déjà très célèbre, mais sont de jeunes auteurs. Et ce qui était très intéressant, c'était de les voir vivre cette révolution, à laquelle, en réalité, il faut être très franc, ils ne comprennent rien. Stendhal, par exemple, est un libéral. Stendhal déteste les Bourbons. Stendhal, il devrait être enchanté par cette révolution. Eh bien, il la méprise. Il la méprise pourquoi ? Bah d'abord parce qu'il est pris dans son livre, et que lui, ce qui l'intéresse, comme tout écrivain, c'est d'abord de finir son livre et pas de faire la révolution. Et puis, disons-le, qu'il rencontre quelques problèmes de panne sexuelle avec sa maîtresse italienne. Et ça l'obsède beaucoup plus que la révolution.
Alors quel rôle Talleyrand a joué ? On le sent, il est présent, il est intriguant, comment il se situe ?
Talleyrand a un rôle essentiel. Talleyrand, c'est l'homme qui a résisté à tout le régime. C'est le grand homme politique du début du 19e siècle. C'est l'homme qui, a lâchant Napoléon, a laissé Napoléon s'effondrer. C'est l'homme qui a permis le congrès de Vienne. Il va, comme à son habitude, tirer toutes les ficelles. Il est rue Saint-Florentin dans son hôtel. De là, il voit les Tuileries évacuées par l'armée royale. Et il se tourne avec ce flegmatisme de Talleyrand. Il se tourne vers son secrétaire, auquel il est en train de dicter son courrier. Il dit « Monsieur, vous noterez qu'aujourd'hui, à 12h05, le roi de France a cessé de régner. » Donc, il a, voilà. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire son rôle de diplomate. Et comme il y a tout le corps diplomatique qui est présent, parce que Charles X a oublié de convoquer à Saint-Cloud les ambassadeurs, et il va obtenir de l'ambassadeur d'Angleterre et de l'ambassadeur de Russie que les puissances européennes n'interviennent pas en France si jamais il arrive à placer Louis-Philippe sur le trône.
Merci Camille Pascal. Donc ce livre, je rappelle le titre, L'été des quatre rois, c'est aux éditions Plon, livre couronné d'ailleurs par le Grand Prix de l'Académie française.
Ah oui, ça j'avoue que ça a été un moment, d'ailleurs je vais bientôt aller le recevoir sous la coupole. Le Grand Prix du roman de l'Académie française est un peu moins connu du grand public que le Prix Goncourt, même s'ils sont nés exactement au même moment. Mais quand vous regardez la liste des prédécesseurs et que vous y retrouvez Mauriac, Saint-Exupéry, Bernanos, vous ne pouvez qu'être impressionné.
Merci à vous.
C'est moi qui vous remercie.